Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Borumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver en ce mardi 5 décembre 2023. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique intitulé « L'armée israélienne quittera Gaza avec une défaite plus grave que celle de l'US Army en Afghanistan ». Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, les forces israéliennes ont tué 5 Palestiniens lors de violents raids en Cisjordanie occupée. Les organisations palestiniennes de défense des droits humains mettent en garde contre une deuxième Nakba à Gaza. Le leader de la révolution islamique d'Iran, l'honorable Ayatollah Khamenei, appelle à la coalition de pays anti-américains. Et puis le chef de la diplomatie iranienne s'est rendu à Moscou pour participer au sommet Caspienne 5. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Les forces israéliennes ont tué 5 Palestiniens lors de violents raids en Cisjordanie occupée. Les forces israéliennes ont tué 5 jeunes Palestiniens lors de violents raids en Cisjordanie occupée dans le cadre de la guerre génocidaire menée par le régime contre la bande de Gaza assiégée. Selon le Centre d'information palestinien, citant le ministère palestinien de la Santé, les 5 hommes ont perdu la vie lundi 4 décembre dans des attaques distinctes menées par les forces israéliennes. Le ministère a déclaré que les 2 Palestiniens avaient été tués après que les forces israéliennes eurent pris d'assaut la ville de Sa'ir, au nord-est de la ville d'Al-Khalil, également connue sous le nom d'Hébron en Cisjordanie, ouvrant le feu sur les habitants de la ville, qui ont répondu en lançant des pétards et des pierres sur les troupes militaires israéliennes. Plus tôt lundi, et à Qalqilia, une ville du nord-ouest de la Cisjordanie, les troupes israéliennes avaient attaqué des civils palestiniens, tuant 2 autres jeunes hommes dans les affrontements qui ont suivi. Les organisations palestiniennes de défense des droits humains mettent en garde contre une deuxième Nakba à Gaza. 3 organisations palestiniennes de défense des droits de l'homme ont émis un sévère avertissement concernant le déplacement forcé de Palestiniens dans la bande de Gaza par le régime israélien, affirmant que cela pourrait conduire à une autre Nakba catastrophe. Selon le Centre d'information palestinien, le Centre palestinien pour les droits de l'homme, le Centre Al-Mezan et la Fondation Al-Haq pour les droits de l'homme qui ont tiré la sonnette d'alarme lundi 4 décembre, mettant en garde contre la répétition de l'événement historique qui a vu le nettoyage ethnique des autochtones palestiniens par le régime israélien en 1948. Le leader de la révolution islamique d'Iran, l'honorable Ayatollah Khamenei, a reçu dans l'après-midi du lundi 4 décembre le président cubain Miguel Díaz-Canel et la délégation l'accompagnant à Téhéran. Lors de la rencontre, le leader a déclaré « Il faut utiliser les capacités politiques et économiques entre l'Iran et Cuba pour former une alliance et une coalition entre les 2 pays, partageant la même position contre les intimidations américaines et occidentales ». L'Ayatollah Khamenei a souligné qu'une coalition de pays anti-américains axée sur la coopération économique peut adopter une position commune et efficace sur des questions mondiales importantes telles que la question palestinienne. Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian s'est rendu à Moscou, la capitale russe, pour assister au sommet annuel des ministres des Affaires étrangères des États riverains de la mer Caspienne. Amir Abdollahian a quitté Téhéran lundi 4 décembre pour assister au sommet annuel des cinq États riverains de la mer Caspienne, connu sous le nom de Caspien 5, étant censé se tenir à Moscou ce mardi 5 décembre. Les membres doivent discuter des questions régionales et internationales pendant la réunion. Le plus haut diplomate iranien devrait rencontrer ses homologues des États riverains de la Caspienne, à savoir la Russie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Turkménistan, pour échanger des points de vue sur des questions d'intérêt mutuel. Enfin, l'Angleterre ignore son rôle majeur de la crise palestinienne et accuse par contre l'Iran à déflorer le représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès de l'ONU et qui rejette les récents propos anti-iraniens d'un ministre britannique rappelant à Londres son rôle déstabilisateur en Asie de l'Ouest, surtout dans le dossier palestinien. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous, merci. L'armée israélienne quittera Gaza avec une défaite plus grave que celle de l'US Army en Afghanistan. La position des dirigeants du mouvement Hamas, en particulier de M. Yahya Sinwar, son leader dans la bande de Gaza, sur la question des négociations visant à prolonger la trêve et à libérer les prisonniers, a été décisive, reflétant la confiance en soi de la résistance et sa disponibilité à toutes les possibilités, y compris la prolongation de la guerre. C'est ce qu'a écrit le rédacteur en chef du journal en ligne, Rai Al-Yaoum, dans son dernier article sur la guerre en cours à Gaza. Abdelbari Atvan a souligné que la direction du mouvement Hamas dans la bande de Gaza a trompé Netanyahou, son gouvernement et ses généraux en les traînant tous à la table des négociations à Doha, exploitant leur faiblesse envers les prisonniers civils en raison des pressions et des manifestations de leurs familles contre les autorités israéliennes pour trois raisons. Premièrement, les négociations indirectes concernant les prisonniers se sont déroulées entre le mouvement Hamas et le régime d'occupation israélien, et sous le parrainage américain. Cela signifie que les parties américaines et israéliennes ont reconnu le mouvement Hamas comme un parti majeur et un acteur militaire, politique et administratif qui dirige la bande de Gaza. Cela invalide toutes les affirmations américaines sur l'effondrement du pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza et sur la recherche d'un remplaçant. En outre, les Américains eux-mêmes ont remis en question leurs affirmations selon lesquelles le Hamas serait comparé à des groupes terroristes. Deuxièmement, le mouvement Hamas et ses dirigeants militaires et politiques dans la bande de Gaza voulaient se débarrasser du fardeau des prisonniers, des enfants et des femmes avec une sécurité et un coût de la vie élevé. Ces personnes, qui se comptent par dizaines, ont besoin de nourriture, de médicaments et des soins de santé. Et la mort de l'un d'entre eux en captivité coûterait très cher en termes de médias et de propagande et constituerait un atout pour les médias israéliens et peut-être aussi internationaux. Troisièmement, le Hamas a pu reprendre son souffle, se repositionner et obtenir une trêve pour obtenir du carburant et des médicaments et surveiller les positions militaires ennemies à l'intérieur du secteur pour élaborer les plans nécessaires pour les affronter. C'est Sinvar qui a mis fin à la poursuite des négociations et de la trêve parce qu'il souhaitait un cessez-le-feu complet et que les négociations concernant les prisonniers militaires ne devaient commencer qu'après y être parvenus. Les courtes trêves constituaient une première étape et se limitaient à la libération des civils, des femmes et des enfants des deux côtés. La deuxième phase, c'est-à-dire l'échange de prisonniers militaires, est complètement différente et se concentrera sur la réalisation des conditions de résistance, c'est-à-dire chacun pour tous et le blanchiment complet des prisons israéliennes. Le peuple palestinien vivait dans un vide dont le titre le plus marquant était l'absence d'une direction palestinienne solide et consciente qui connaissait bien la partie israélienne et de l'intérieur, ses forces et ses faiblesses. Il semble que la direction actuelle de la bande de Gaza, représentée par M. Sinvar et son jumeau, le général Mohammad al-Deif, façonne ce leadership et comble ce vide. L'une de ses caractéristiques les plus marquantes, outre les qualités mentionnées ci-dessus, est que les deux hommes connaissent bien Israël, ne veulent pas connaître la partie arabe et ses dirigeants en particulier, et ils quittent donc rarement la bande de Gaza. Sinvar s'est rendu au Caire une fois, je crois, et avant de prendre la direction du Hamas dans la bande de Gaza. Sinvar s'est rendu au Caire une fois, je crois, et avant de prendre la direction du Hamas dans la bande de Gaza. Ils ne sont soumis à aucune influence d'aucune capitale arabe et ce sont de bonnes qualités qui peuvent être à l'origine de leur bonne gestion de la guerre actuelle contre l'occupation de la bande de Gaza, a précisé le rédacteur en chef de Ra'al Yalyaoum. La bataille qui a suivi la rupture de la trêve a commencé par des massacres sanglants commis contre des civils dans les régions du nord et du sud, notamment à Nusayrat, Bouraïj, Deir al-Bala, Khan Younes et Rafah, qui sont les zones censées être en sécurité selon les promesses israéliennes. Mais Israël ne respecte pas les accords et les promesses avec le soutien des États-Unis et la coordination totale de son secrétaire d'État, Anthony Blinken, qui a donné le feu vert à Netanyahou pour déclencher la guerre dans la bande de Gaza pendant son mandat. Après la fin du cessez-le-feu, Blinken a annoncé qu'il n'était pas contre la reprise des attaques militaires contre la bande de Gaza, mais qu'il était contre le déplacement des habitants de Gaza. Bien entendu, cette affirmation du ministre américain des Affaires étrangères visait à ce que son pays ne perde pas ses alliés en Égypte, en Jordanie et dans d'autres pays de la région et à prétendre qu'il se préoccupait du sort des civils à Gaza. Israël a sombré dans le bourbier de Gaza et il n'en sortira pas, lui et son armée, sauf vaincus. Ce n'est pas nous qui prononcerons ces mots sur la base de notre connaissance de la bande de Gaza et des factions de la résistance, mais plutôt de ce que Lloyd Austin, le secrétaire américain à la défense, affirme également et confirmé par Thomas Friedman, écrivain au journal américain The New York Times, expert dans les affaires du Moyen-Orient, a noté Atvan. Les zones tampons que le régime occupant tente d'établir le long de la frontière avec la bande de Gaza témoignent de la recherche désespérée de tout résultat que le gouvernement Netanyahou commercialise auprès d'une opinion publique terrifiée, dont la plupart s'opposent à cette guerre. Le mur électronique frontalier avec la bande de Gaza, dont la construction a coûté 2 milliards de dollars, n'a pas empêché l'infiltration des combattants palestiniens. L'attaque historique d'octobre, libérant plus de 50 colonies et villes, a entraîné la mort de 1200 soldats et colons, a blessé 3000 autres et en ont capturé 250, dont des généraux et des soldats. Israël a commis la même erreur que son protecteur et gardien américain a commis en Afghanistan. les États-Unis qui ont attaqué l'Afghanistan sous prétexte de se venger des attentats du 11 septembre 2001 ont dû quitter ce pays après 2 décennies dans un état humiliant. L'armée israélienne quittera certainement Gaza avec une défaite plus lourde que la défaite de l'Amérique en Afghanistan. Ce sera le prélude à l'effondrement complet du projet sioniste, conclut l'article de Raya Liam.
Bonjour à tous. Notre débat, le programme d'aujourd'hui, concerne donc toujours depuis le 7 octobre le sujet de la Palestine et notamment le dernier discours et commentaire du leader de la révolution islamique d'Iran. Je vous propose tout d'abord, comme le veut notre format débat, donc un reportage qui fera le point sur les différents propos tenus par le leader de la révolution islamique et par la suite nous ferons venir nos deux invités afin de commenter, analyser et voir si et voir ensemble le sujet. Je vous propose de suite alors le reportage.
De la révolution islamique, l'ayatollah Sayyid Ali Khamenei a déclaré que la tempête d'Al-Aqsa du Hamas était principalement dirigée contre le régime sioniste, mais qu'il avait réussi à perturber la politique américaine dans la région et qu'il effacera enfin, Inch'Allah, l'agenda des programmes politiques américains pour la région. L'honorable Ayatollah Khamenei a fait cette déclaration aujourd'hui, mercredi 29 novembre, lors d'une audience devant des milliers de Basiji, forces volontaires venues de tout le pays. L'événement historique de la tempête d'Al-Aqsa est contre le régime sioniste, mais vise à désaméricanisation. Cet incident a littéralement perturbé la politique américaine dans la région et si Dieu le veut, si cette tempête continue, elle effacera l'agenda des programmes politiques américains, a noté le leader. L'ayatollah Khamenei a souligné que les atrocités israéliennes à Gaza ont non seulement déshonoré le régime israélien, mais aussi les États-Unis, certains pays européens, ainsi que la culture, la civilisation occidentale. Les actions barbares et cruelles commises par le régime sioniste et ses crimes contre la population de Gaza ont non seulement détruit la réputation du régime, mais aussi celle des États-Unis. Cela a terni la réputation de plusieurs pays européens renommés en ruinant aussi l'image de la culture et de la civilisation occidentale, a-t-il fait remarquer. La culture et la civilisation occidentale sont précisément celles sur lesquelles se fonde le gouvernement d'un pays occidental lorsqu'il déclare qu'Israël ne fait que se défendre alors même qu'il massacre 5000 enfants par des bombes à phosphore. Est-ce là de la légitime défense? La culture occidentale a véritablement été discréditée, a ajouté le leader. Le leader de la révolution islamique a déclaré que les atrocités israéliennes à Gaza au cours des 50 derniers jours résument les crimes commis par le régime contre les Palestiniens pendant des décennies. Les tragédies des 50 derniers jours ne représentent qu'une petite partie des crimes du régime sioniste en Palestine qui dure depuis 75 ans, indiqué l'honorable Ayatollah Khamenei. La tempête d'Al-Aqsa ne s'essoufflera pas et ils doivent savoir que la situation actuelle ne perdurera pas, a-t-il fait remarquer. Le leader a également souligné que la République islamique d'Iran croit en un référendum en Palestine et en l'opinion publique palestinienne. La République islamique n'est pas d'avis de jeter les sionistes et les juifs à la mer, comme certains l'avancent comme solution, a-t-il conclu. Plus loin dans ses propos, l'honorable Ayatollah Khamenei a déclaré que les États-Unis n'avaient pas réussi à fomenter des complots pour la création d'un nouveau Moyen-Orient, ajoutant que la soi-disant solution à deux États dans les territoires palestiniens faisait partie de la même politique hostile qui a lamentablement échoué.
Alors nous revoilà donc sur le plateau. Nous allons faire venir tout d'abord nos invités. Commençons par M. Amrouni, expert en analyse politique, souvent expert de Presse TV. Bonjour M. Amrouni, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Bonjour à vous et à votre cher invité.
Merci à vous. Deuxième invité, le professeur Adaobola, présent à Beyrouth. Bonjour professeur Adaobola, ravi aussi de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Merci pour m'avoir invité à votre plateau encore une fois et j'en profite aussi pour saluer votre invité Hachimi Amouni.
Alors Marine Rodol, professeur Obola, nous allons commencer par vous. Alors le discours du leader de la révolution islamique, les propos tenus, le fait que finalement ils remettent en question depuis longtemps, hein, l'Iran ce n'est pas la première fois, ce n'est pas suite au 7 octobre que l'Iran a toujours dénoncé le narratif occidentale pour présenter notamment le Moyen-Orient. Il a de nouveau, donc le leader de la révolution islamique, lorsqu'il a rencontré les Basij, il a de nouveau donc dénoncé ce narratif occidental, mais le fait aussi que cette fois le monde ne se laisse pas prendre au piège de ce narratif et que ça pourrait être bien un basculement historique dans la situation du monde, mais également dans la situation du Moyen-Orient. Est-ce que vous, en tant que professeur, vous analysez avec vos étudiants à l'Université de Beyrouth, ce genre de citation géopolitique. Est-ce que vous... qu'en pensez-vous donc des propos tenus par le leader ?
Le leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, en fait, il a, sans citer vraisemblablement, mais il était en train, en fait, de parler des conséquences géopolitiques de l'opération Déluge al-Aqsa. La vraie traduction, c'est déluge, c'est non pas tempête. Tempête, c'est plus restreint géographiquement parlant. C'était juste une parenthèse. Donc, déluge à l'Aqsa a provoqué des conséquences géopolitiques au sens non pas seulement militaire sur le terrain, mais aussi au sens culturel, au sens médiatique et au sens psychologique et au sens doctrinal. En fait, si on veut donner un seul titre ou résumer en une seule phrase ce qui s'est passé via le déluge à l'Aqsa, et je crois que c'est ce que l'Ayatollah Sayyed Ali Khamenei a fait part, c'est que en fait, déluge à l'Aqsa, quand il dit qu'elle n'a non seulement qu'elle a pas seulement détruit les plans du régime sioniste en tant que projet israélien connu sous le nom de Grand Eretz en hébreu, c'est-à-dire le Grand Israël, dont les frontières géographiques s'étendent jusqu'au Liban, l'Égypte, la Jordanie, etc. Mais en fait, déluge al-Aqsa a détruit 70 années, 70 c'est plus, de diffamation médiatique contre l'islam à travers les campagnes contre le Coran, à travers la création d'Al-Qaïda, à travers la création des talibans, à travers aussi 70 ans de guerre intestine dans toute la région, à travers la guerre en Syrie en créant Daesh et à travers que ce soit Daesh ou à travers l'Al-Qaïda, on a tenté en fait de vider le sens véritable du djihad qui est en fait un sens très spirituel et il faut vraiment jouir de certaines capacités et de certains traits caractéristiques islamiques moraux et aussi à dénoncer d'une autre part toutes les tentatives de l'entité sioniste de prouver qu'elle était un État démocratique libéral. Or avec la venue et l'arrivée de l'extrémisme droite religieux et avec surtout ce qui s'est passé avant déluge al-Aqsa, les manifestations contre les amendements judiciaires dont Netanyahu voulait absolument imposer, il était en train de menacer la couverture, si j'ose dire, ou plutôt l'emballage de l'entité sioniste, l'emballage démocratique, avec déluge al-Aqsa, tout a été dénoncé. Donc Hamas a détruit 70 années toutes ces fortunes qui ont été versées pour justement diaboliser l'islam, diaboliser l'Iran, diaboliser le Hezbollah, diaboliser toutes les factions de résistance islamique, en fait, sont tombées à l'eau avec justement des luges à l'Aqsa. Et donc, quand je parle du cinquième pouvoir, j'en ai parlé auparavant dans une de vos émissions, le cinquième pouvoir, je tiens à dire par là que ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux étaient une arme géopolitique à double tranchant pour l'Occidentaux, parce qu'à travers les réseaux sociaux, ils voulaient en fait empoisonner toute une génération, que ce soit pas seulement chez nous, mais chez eux aussi, dans tout ce qui est en fait de les transformer en produits en consommateurs, uniquement consommateurs, de n'avoir de voler toute initiative de leur part, toute volonté. Il s'est avéré que en fait ce sont des initiatives privées de la part de la jeunesse qui est issue de la révolution numérique, qui ont en fait dénoncé, et ce n'est pas seulement des musulmans, c'est aussi des Américains, des Français, qui ont dénoncé toute la narration, toutes les vidéos qui ont été diffusées par l'entité sioniste pour prouver une quelconque victoire ou bien pour essayer de prouver que c'était elle qui était la victime et qu'en fait, les agresseurs, c'est le Hamas. Et tout ça, en fait, est tombé à l'eau.
Merci, professeur Obola. Alors, monsieur Amrouni, ça fait longtemps que vous êtes expert pour la chaîne Presse TV et auparavant pour Sahar. Vous avez souvent suivi donc les déclarations faites à partir de l'Iran, mais également le narratif occidental concernant donc l'Iran. Nous avons vu depuis le 7 octobre un va-et-vient diplomatique à partir de l'Iran à travers tout le Moyen-Orient, quel que soit le pays ami ou moins ami. On a vu l'Iran partir en Arabie Saoudite dans les premiers pays lorsqu'il y a eu donc cette tempête, ce déluge, comme dit le professeur Obola d'Al-Aqsa. Nous avons vu également le Hezbollah libanais être extrêmement précis et méticuleux dans ses attaques, puisque ces attaques se sont faites progressivement, graduellement et simplement militairement. Nous voyons maintenant le leader de la révolution islamique s'en prendre au narratif occidental qu'il a déjà à plusieurs fois dénoncé. Et nous avons également, grâce aux réseaux sociaux, comme l'a dit le professeur Obola, ce cinquième pouvoir qu'elle dénonce, rappeler que plusieurs pays arabes, à l'époque du début de Daesh, dans les pays européens, le narratif islamique, entre guillemets, puisque les pays musulmans ne reconnaissent pas cet islam-là, ce narratif donc islamique en Europe, prévenir que c'était du poison pour les peuples européens. Et là, on en arrive aujourd'hui au fait que le leader de la révolution islamique réclame à ce qu'il y ait un référendum pour les Palestiniens, à ce que leur souveraineté leur soit redonnée. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous entendez donc l'Iran s'exprimer ainsi ?
D'abord, nous saluons le peuple de Gaza, la résistance palestinienne qui continue à résister, qui continue à affronter l'armée américaine. Parce que le vrai responsable de ces massacres, c'est les États-Unis. L'armée sioniste, ce ne sont que des mercenaires, que des colons venus s'installer de la Russie, de l'Europe, de l'Afrique du Nord, de l'Asie, pour coloniser la terre de la Palestine. Donc le vrai responsable de tous les massacres depuis cette décennie, c'est les États-Unis, c'est l'Occident, d'abord. Deuxièmement, l'événement dont Ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême de la révolution islamique, a parlé, c'était avec les passages. Les passages, il faut les saluer tous les martyrs du passage iranien, car c'est cette forme de résistance populaire qui a su garder vivante la révolution islamique en Iran et à l'extérieur de l'Iran. Donc c'est cette force populaire qui s'appelle le passage qu'on va le retrouver au Liban dans les années 80, on va le retrouver en Irak dans les années 90, on va le retrouver au Yémen dans les années 2000 et on le retrouve dans la Palestine depuis les années 90 aussi. Donc c'est cette force populaire, c'est la force populaire qui résistent dans le monde arabo-musulman. Ce ne sont pas les États. Et ça, c'est un fait important et remarquable, car les passages en Iran, ils ont su, grâce à leur travail, grâce à leur patience, grâce à leur veillance et grâce à leurs martyrs, que ce soit des soldats, des généraux, des scientifiques, à maintenir vivante cette révolution islamique grâce à laquelle aujourd'hui on voit les victoires sur les fronts de la résistance un peu partout dans le monde et surtout dans la région. Donc ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, c'est le fruit des passages, c'est le fruit de cette culture de la résistance populaire. Donc il faut le dire aussi. Troisième point qui est très important dans le discours, c'est que toujours le guide suprême montre le vrai responsable, c'est-à-dire les États-Unis, montre la force de la croyance dans la résistance en disant que la tempête de l'Aqsa ou le déluge de l'Aqsa a donné ses fruits, c'est-à-dire d'abord a montré l'impuissance de l'armée sioniste, l'anéantissement de l'appareil politique sioniste et la responsabilité des Américains et des Occidentaux d'une part. D'autre part, il a donné la solution politique. Et Ayatollah Ali Khamenei l'a dit depuis à peu près une quinzaine d'années, la solution d'un référendum. C'est quoi un référendum? C'est la solution pacifiste. C'est-à-dire que la République islamique d'Iran, le guide suprême de la révolution, les révolutionnaires musulmans ne veulent pas la guerre. La guerre, c'est-à-dire, elle est imposée aux révolutionnaires musulmans. Ce n'est pas les révolutionnaires musulmans qui veulent la guerre. Au contraire, ils veulent la paix, ils veulent pacifier la région. Et donc, le référendum proposé par le guide suprême, c'est une solution pacifique. Et donc, cette solution consiste à réunir toutes les composantes du peuple palestinien, qu'ils soient musulmans, chrétiens, juifs, arabes, non-arabes, ceux qui sont d'origine de cette Palestine, et organiser à l'intérieur même un référendum par l'ONU, par des organisations internationales, pour trouver un État qui englobe, c'est-à-dire toutes les composantes. Alors que la solution de deux États, c'est un leurre américain, si vous voulez. Aujourd'hui, par exemple, l'intermédiaire pour avoir les trêves, c'est qui? C'est les États-Unis. Est-ce que les États-Unis peuvent être un bon intermédiaire alors qu'ils sont responsables de cette guerre? Donc, c'est un leurre. La solution de deux États, elle n'est pas vivable. On l'a montré après les accords d'Oslo. Qu'est-ce qu'il a gagné le peuple palestinien? Ben, le peuple palestinien, il est massacré. Il y a 12 000 prisonniers dans les geôles israéliennes. Il y a des milliers de martyrs. Jusqu'à aujourd'hui, les enfants, les femmes, les vieillards subissent l'agression sauvage et criminelle des Israéliens et des Américains et des Occidentaux, parce qu'il faut rappeler que la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Hollande, ils ont des forces spéciaux, des forces navales autour de Gaza et autour du Liban. Donc c'est une vraie guerre contre l'humanité. Ce n'est pas une guerre contre la Palestine ou les Palestiniens ou la résistance palestinienne.
Merci,
cette guerre, elle est entre les sauvages sionistes et les humains palestiniens. Et donc, le discours de Ayatollah Khamenei, lorsqu'il dit « Nous ne voulons pas jeter personne dans la mer, nous voulons une solution pacifiste et pacifique. » Il faut rappeler que cette proposition, elle date depuis une dizaine d'années. Il faut que la diplomatie iranienne et les organisations musulmanes révolutionnaires travaillent, si vous voulez, au niveau de la communication pour que cette proposition arrive dans les instances européennes, américaines et occidentales, surtout que l'opinion publique aujourd'hui en Europe et aux États-Unis, elle est favorable à la Palestine et à la résistance palestinienne.
Merci, monsieur Amrouni. Alors, professeur Ghada Oboula, vous avez parlé, je reprends le propos, donc vous avez parlé de diabolisation, de diaboliser. Là, je reprends les propos donc, de monsieur Amrouni concernant le fait qu'on ait souvent diabolisé les discours iraniens, diaboliser les pays musulmans qui s'opposaient donc à l'occupation de l'entité sioniste. Et là, de nouveau, en fait, l'exemple de depuis ce 7 octobre, c'est le fait qu'on est loin de la diabolisation dans les actes et dans les propos tenus par les pays musulmans avec l'Iran et le Liban en première vague. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Oboula? Est-ce que vous pensez que grâce à ça, grâce aux positions prises par le Liban et par l'Iran, ça permet au monde de voir que finalement, les vrais diables dans l'histoire ne sont pas ceux dont le narratif dénonce, mais plutôt ceux qui écrivent le narratif de la situation palestinienne?
Non, je ne suis pas tout à fait d'accord dans le fait que le Liban et l'Iran jouent un rôle prépondérant dans cette affaire. En fait, il y a eu, je vous ai dit, c'est vraiment le cinquième pouvoir qui a joué, qui a fait balancer les choses.
Ce que je veux dire par là, c'est que le fait que le Liban et l'Iran ont montré, je veux dire, se sont pas tellement imposés dans ce qui s'est passé, dans ce qui se passe, parce que le cessez-le-feu a fini, donc à Gaza à l'heure actuelle, ont montré que, comme l'a dit Monsieur Amrouni, ils ne cherchent pas la guerre, ils n'ont jamais cherché le conflit au Moyen-Orient, et finalement, on leur a imposé. Ce que je veux dire là, c'est que grâce à ce que vous avez dit, le cinquième pouvoir, grâce à ce que vous avez vous-même dénoncé, on voit que finalement, le Hezbollah, qui est présenté comme du terrorisme, ou l'Iran comme un élément perturbateur de la région, joue finalement un rôle beaucoup plus sensé et propose des solutions plus sensées. Je ne veux pas dire par là que ça veut dire qu'il joue un rôle central dans la situation à Gaza. Comme vous l'avez dit, il y a ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux et l'utilisation. Ouais,
disons tout cela, chaque État ou chaque faction de résistance a un rôle qui se complète. La force majeure de l'axe de la résistance, depuis, je pense, il y a quelques années, c'est-à-dire avant l'assassinat du général Qassem Soleimani, quand Qassem Soleimani a décidé justement, et on sait tous qu'il s'est rendu plusieurs fois en Palestine occupée et qu'il a beaucoup aidé et entraîné et formé les factions de la résistance palestinienne. Et c'est à partir de ce jour-là qu'on a commencé à parler de ce qu'on appelle de l'unité des arènes. En fait, c'est l'unité des arènes qui a renforcé la coordination entre les différentes parties de l'axe de la résistance, que ce soit des États ou que ce soit des partis ou des forces politiques. Et cette coordination, elle a fait ses preuves à plusieurs occasions. Malheureusement, ce sont des occasions, comme vous l'avez dit, comme l'a dit votre invité, ce sont des guerres qui ont été imposées, plutôt des batailles qui ont été imposées au Hamas ou à la Cisjordanie, ou même à la Syrie, encore moins au Liban. Et à chaque fois, l'axe de résistance faisait preuve de beaucoup de rationalité, c'est-à-dire même au niveau des ripostes, on a bâti des scénarios un petit peu armadogoniens, c'est-à-dire qu'on croyait que le Hezbollah ripostera aux massacres qui sont en train d'être perpétrés à Gaza par une salve de milliers de missiles, ce qui n'a pas été le cas. Et ça fait preuve d'une immense sagesse. En fait, il a répondu d'abord sur une frontière de 100 km et plus, en détruisant plus de 25 bases militaires avec tout leur équipement d'espionnage qui ont coûté des millions de dollars, empêchant justement l'entité sioniste d'avoir un argument à côté des États-Unis, c'est-à-dire qu'elle était soutenue par les États-Unis, de pouvoir élargir la guerre et d'ouvrir plusieurs fronts, et pourquoi pas d'élargir la guerre en allant jusqu'au provoquer une guerre entre une confrontation entre l'Iran et les États-Unis, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, également, quand vous regardez la riposte du Yémen, quand vous regardez la riposte de la résistance islamique en Irak, vraiment, ce sont des ripostes bien étudiées, bien calculées. Même le comportement du Hamas au moment de la trêve était également très calculé. À chaque minute, à chaque diffusion de leurs médias de guerre, on avait une surprise. Et donc là, on constate qu'en fait, tout cet axe de la résistance jouit désormais d'armes qu'en fait l'Occident croyait pouvoir contrôler. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cela ne coûte pas beaucoup au niveau des dollars pour l'axe de la résistance. Tout cela fait partie de leur capacité d'innover, de trouver des solutions malgré un embargo et un étau sur trois pays, c'est-à-dire le Liban, la Syrie, parce que vous avez la loi César contre la Syrie, le Yémen et l'Iran là je viens de voir une information que le Congrès vient d'adopter une loi qu'il renouvelait le gel des avoirs iraniens. Donc il refuse de libérer les avoirs iraniens. Donc les États-Unis poursuivent leur politique d'embargo contre l'Iran. Et malgré cela, vous avez un comportement, vous avez une résistance multifonctionnelle, multipartite, contre, je vais le dire, ce que l'imam Khomeini a dit, l'impérialisme américano-sioniste.
Merci, professeur Obola. C'est sur ces propos que nous terminons notre débat d'aujourd'hui. Je remercie nos deux invités du jour, donc le professeur Ada Obola et M. Amrouni, nos deux experts d'aujourd'hui concernant ce débat. Je vous dis à bientôt pour un autre sujet du débat, ici dans les studios de Presse TV dans la capitale iranienne Téhéran. N'hésitez pas à voir ou revoir nos programmes sur notre page de PresseTV.ir ou encore sur nos réseaux sociaux. À bientôt pour un autre sujet du débat ici dans la capitale iranienne, Téhéran. Au revoir.
Histoire des sciences en Iran. L'année 2022 a été nommée l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable et est célébrée dans le monde entier. Dans ce programme, nous allons essayer de vous familiariser avec le brillant passé des sciences fondamentales en Iran et les figures de proue dans ce domaine. Ce programme vise à faire connaître les acquis uniques d'une nation qui a resté inconnue malgré ses innombrables services à l'humanité. Chers auditeurs, bonjour. Les femmes scientifiques iraniennes ont apporté de grandes réalisations à l'Iran dans le domaine de la science et de la recherche, aux côtés des figures masculines éminentes. Aujourd'hui, nous allons brièvement connaître la vie et les activités de l'une de ces iraniennes qui ont obtenu des succès remarquables dans le domaine scientifique pour le pays. Merci de nous suivre jusqu'à la fin du programme. En chimie, l'une des activités les plus importantes consiste à travailler sur des produits chimiques et le nombre de femmes qui ont accédé et occupé les premiers et les plus hauts rangs dans ce domaine au cours de l'histoire de l'Iran n'est pas minime. Grâce à ces scientifiques, l'Iran est aujourd'hui en tête de la région en termes de développement scientifique dans de nombreuses sciences et la chimie y est aujourd'hui plus avancée que les autres domaines scientifiques. Environ 20% de la production scientifique iranienne est liée à la science de la chimie. En raison de la dépendance économique du pays au pétrole, au gaz, à la pétrochimie, à l'exploitation minière, la chimie est considérée comme une science native iranienne et le succès de la recherche scientifique dans ce domaine a été particulièrement impressionnant dans le pays. Selon les experts en sciences fondamentales, les universités iraniennes occupent aujourd'hui un rang élevé dans le classement mondial dans certains domaines de la recherche chimique. La professeure Afsane Safavi est née en 1955 dans la ville de Shiraz, au centre de l'Iran, et est l'une des pionnières de la science de la chimie dans le pays. La professeure Safavi a terminé ses études de premier cycle en 1971 dans le domaine de la chimie à l'université de Shiraz. En 1976, elle s'est rendue à l'université de Birmingham en Angleterre pour poursuivre ses études en utilisant la bourse octroyée par le ministère des sciences de l'époque à ceux qui ont obtenu le premier rang dans leur domaine d'études. Après avoir terminé ses études supérieures, elle a été reconnue comme la première femme iranienne à atteindre le rang de professeur de sciences fondamentales. Cette chercheuse iranienne a publié plus de 270 articles dans des revues scientifiques internationales prestigieuses et présenté 250 documents lors de conférences nationales étrangères. La professeure Afsane Safavi est également lauréate du prix scientifique international professeur Abdessalam de chimie qui lui a été décerné en Italie. Elle est la scientifique la plus publiée et la plus citée dans les pays du tiers-monde, a obtenu le prix iranien Donesh en 2004. Elle est également titulaire du titre de professeur exemplaire au niveau national, a reçu plusieurs bourses et prix scientifiques nationaux et internationaux, dont une bourse d'études de l'Allemagne. La professeure Afsane Safavi a mené un large éventail d'activités scientifiques. Elle est notamment membre du comité de rédaction de magazines scientifiques et technologiques iraniens et du journal Société chimique iranienne. En outre, elle a rendu de précieux services en tant que conseillère auprès du département général de l'environnement de la province de Fars, dans le sud de l'Iran. Parallèlement, elle a fait partie du comité de lecture d'articles destinés à être publiés dans des revues scientifiques internationales prestigieuses. En 2018, la scientifique iranienne a remporté le prix de l'Académie mondiale des sciences, a pu être présentée comme la lauréate du prestigieux prix de la Tuas Medal Lecture. L'Académie mondiale des sciences pour l'avancement de la science dans les pays en développement de Fars décerne chaque année depuis 1996 ce précieux prix scientifique et technologique à un ou deux membres de l'Académie qui ont grandement contribué à l'avancement de la science et de la technologie. Mais le travail du Dr Afsane Safavi dans le domaine de la chimie ne se limite pas à ses études. En effet, après avoir obtenu son doctorat, elle a passé beaucoup de temps, même à la maison, à effectuer des recherches scientifiques. Dès que l'occasion se présente, elle corrige les copies des étudiants, lit leurs thèses et répond à leurs questions. Elle continue à enseigner à l'université en tant que professeure d'université. Ses étudiants restent en contact avec elle jusqu'au tard dans la nuit. La professeure Safavi a dirigé et supervisé 41 thèses de doctorat et 55 mémoires de maîtrise et a supervisé 6 étudiants postdoctoraux à son portfolio académique. Concernant ses succès dans sa vie personnelle et professionnelle, elle explique « À mon avis, il n'y a pas d'objectif plus sacré que de servir le pays en tant que membre de la fière société iranienne dans le système d'enseignement. J'ai essayé de servir la jeune génération d'étudiants et le plus grand honneur de ma vie universitaire et de voir la réussite de mes étudiants dans divers domaines scientifiques, sociaux et culturels. Je passe 6 à 7 heures à l'université et je passe le même temps à la maison. En dehors de ces cas, j'ai participé à de nombreuses conférences internationales dans des pays européens ainsi qu'à des conférences nationales. Tout cela nécessite le soutien de ma famille que j'ai la chance d'avoir. » Cette dernière présente ainsi les caractéristiques d'une femme qui réussit. À mon avis, les voies de la réussite pour les femmes et les hommes dans la société ne sont pas différentes, car une personne qui réussit est une personne qui poursuit un objectif spécifique dans la vie, qui a un plan approprié pour atteindre ses objectifs et qui s'efforce d'aller dans la bonne direction pour atteindre ses objectifs. En outre, la confiance en Dieu est un élément qui aide beaucoup une personne dans la vie et sur le chemin de la réussite. En même temps, elle doit croire au principe selon lequel vouloir, c'est pouvoir. Par exemple, chaque personne peut être confrontée à des situations difficiles et inappropriées dans sa vie. Des situations qui, malgré de grands efforts, peuvent la rendre déprimée. C'est là que la confiance en Dieu peut être très efficace pour créer de l'espoir. Le docteur Safavi ajoute « Nous avons des preuves évidentes que les femmes de notre société ont brillé dans divers domaines scientifiques, culturels et artistiques et qu'elles ont acquis la confiance en soi nécessaire pour participer activement sur les scènes scientifiques nationales et internationales. Heureusement, le terrain est propice à l'épanouissement et au dynamisme des femmes iraniennes. Dans le cadre de mes activités scientifiques, je n'ai jamais moi-même rencontré ou ressenti plus d'obstacles que mes collègues masculins. »
Thank you.